Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, est-ce que Pompée s'est trompé ? Si la science a fait d'énormes progrès au cours des derniers siècles, il est un domaine qui lui résiste encore, l'origine des blagues. Comment naissent-elles et comment identifier avec certitude leurs géniteurs ? Mystère. Du moins peut-on de mieux en mieux détecter ceux qui n'en sont pas les auteurs alors qu'ils font mine de l'être. Ainsi, la chaîne Copycomique sur Internet s'est-elle donnée pour mission de débusquer ceux qui, parmi les humoristes français, s'en vont piocher clandestinement chez leurs homologues anglo-saxons. Tomer Sisley, Jamel Debbouze, Roland Magdan, Malik Bentala ont ainsi été pris en flagrant délit de plagiat, ou encore Gad Elmaleh, lequel n'a guère apprécié de se faire pincer. Il réplique désormais sur le terrain du droit. Son avocate réclame la suppression des vidéos qu'il met en cause, au motif qu'il s'agit d'une atteinte au droit voisin du droit d'auteur, ce qui ne manque pas d'ironie. Alors, cette pratique du copier-coller n'est évidemment pas propre au monde de l'humour, mais elle interroge cet art populaire, essentiellement oral, où il est difficile de faire la part des choses entre ce qui relève de la simple citation, de l'hommage et du vol caractérisé. D'où l'intérêt par ailleurs de s'interroger, et c'est l'objet de cette émission ce soir, sur les ficelles du métier d'humoriste. Alors est-ce que Pompée s'est trompé ? Et c'est avec ce titre que j'assumais pleinement il y a une semaine lorsque je l'ai trouvé, que j'assume un petit peu moins ce soir, mais bon, allons-y, hein, que nous allons...
Vous l'avez piqué à quelqu'un, non, c'est bon ?
Non, alors non, on peut vérifier sur Google, je tiens à le dire, ce titre n'existe pas, en tout cas en français, j'ai pas vérifié dans les autres langues. Quatre invités ce soir pour en discuter, il vient de parler, c'est Alex Ramirez, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes humoriste et comédien, vous êtes actuellement sur scène avec votre troisième spectacle sensiblement viril, c'est du jeudi au samedi à la Comédie de Paris jusqu'au 30 mars, vous serez ensuite en tournée. Et vous êtes également youtubeur. Et puis pour ceux qui regardent Quotidien sur TMC, on a pu vous voir
exact.
Ces dernières semaines dans l'émission. Pour discuter avec vous, Antoinette Collin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la directrice artistique du Point Virgule et du Grand Point Virgule, une des principales salles de spectacle parisiennes dédiées à l'humour. Et vous coordonnez notamment le Trempoint, qui est une scène pour les nouveaux talents. On aura évidemment l'occasion d'en dire un mot. Troisième invité, Christine Bérou, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes auteur, humoriste, chroniqueuse sur Europe 1 dans l'émission d'Anne Roumanoff. Vous avez écrit en 2012 aux éditions Erol, écrire un one-man show et monter sur scène. On vous doit également un roman, on le citera à la fin de l'émission si vous voulez bien.
C'est très aimable à vous.
Et puis notre quatrième invité, Mathias Seigné, bonsoir.
Bonsoir.
Auteur, metteur en scène, professeur à l'école du one-man show. Il y a donc une école du One Man Show qui se trouve à Paris, qui forme combien d'élèves chaque année ?
Tout à fait, à peu près entre 100 et 200 élèves.
Et vous êtes par ailleurs le directeur artistique de la Comédie d'Alérac à Paris, qui
tout
est
à fait.
Un café-théâtre. Alors j'évoquais Copycomique, on va commencer par ça. J'aimerais d'abord savoir si quand on évoque ce nom, Copycomique, ça crée une forme de terreur dans le monde de l'humour. Moi, je me disais, ça peut être un peu comme le Kaiser Soze dans Usual Suspects. Vous savez, la simple évocation de son nom fait que ça fait peur à tout le monde. Christine Bérou.
Pourquoi moi, tout de suite?
Il faut bien choisir quelqu'un pour commencer.
Une terreur, mais pour reprendre le titre de votre émission, c'est du grain à moudre pour nous les humoristes. Et ça pose une question qui est intéressante puisqu'on ne se l'est jamais trop posé, même entre nous. Donc c'est bien. Maintenant, on va pouvoir établir entre nous de nouvelles règles et une espèce de charte. Voilà, et c'est très bien.
Ça fait discuter en tout cas chez les
oui,
humoristes.
Oui, parce qu'on a aussi de l'affection pour les gens qui se sont fait pincer. On n'a pas envie d'être dans le jugement. On se dit voilà, comment ça s'est passé, pourquoi, etc. Et puis c'est un peu triste. Hein. Ça reste aussi des gens qui sont tout d'un coup. C'est une balance quoi. Il y a de ce ressort-là et c'est toujours un peu triste de voir des gens se faire balancer.
Voilà, par ailleurs des gens plutôt, même très talentueux. Antoinette Collin.
C'est triste parce qu'effectivement ça donne une image pas très jolie au métier. Et on fait du divertissement, on est là pour divertir les gens. Et clairement, moi je pense que voilà, ça remet un peu les compteurs à zéro et ça va faire une sorte de nettoyage, si je puis dire. Ça. Mais voilà, je pense que le public n'avait pas besoin de ça. Et que pour moi, j'ai tendance à dire, alors effectivement, là il y a toute l'affaire Gad. Qui prend du volume, on va dire. Mais après, je pense l'année dernière ou il y a deux ans, je ne sais plus. Parce que pour moi, ça a été un petit phénomène.
Quand tu ne sais pas.
Je ne sais pas, je ne sais plus quand est-ce que ça a commencé, toutes ces affaires. Mais il y a deux ans à peu près, je crois maintenant.
À peu près, ouais, voilà. Avec Tomer
Sisley. Pour moi, ça a été vraiment un épiphénomène. Et j'avais le sentiment que ça a fait un gros tremblement de terre d'un coup dans le métier. mais que le public n'était pas... voilà, là, les médias se portent plus sur le cas GAD, donc ça devient une grosse affaire. Mais voilà, pour moi, c'était un épiphénomène, si je puis dire.
Vous en ressentez les effets de ce tremblement de terre, Alex Ramirez et Mathias Seigné, Alex Ramirez ?
Un truc qui est magique, c'est qu'on ne sait pas qui est cette personne, donc il y a quelque chose de très mystérieux,
c'est ça qui est mystérieux.
Du coup, et qui plane et qui fait parler dans le métier. Après, oui, je ne sais pas, je pense qu'il y a vraiment deux façons de voir entre le public. Moi, je suis plutôt... OK avec le fait que le public doit être au courant de ce qu'il va voir, parce que si ça se trouve, il adore... puis c'était, il a peut-être aimé des sketchs ou aimé une personnalité qui finalement venait d'une autre personne, et je trouve ça intéressant que le public soit au courant de ça. Mais oui, il y a deux ampleurs différentes. Je trouve que dans le métier, c'est quelque chose qui nous touche plus parce qu'on est là-dedans, et le public va être davantage dans la consommation parce qu'il va voir des divertissements, mais je trouve ça intéressant qu'il soit au courant quand même.
Mathias Seigné.
Oui, alors je sais pas si le grand public, ça va avoir un impact sur lui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les spectacles américains, canadiens sont un peu démocratisés avec Internet, donc on s'en rend compte. Bon, je pense que chez les humoristes, on le savait déjà un petit peu. Moi, j'avais déjà entendu des rumeurs, et ça me surprend pas énormément.
Après, Elie Semoun qui témoignait dans un reportage d'Envoyé spécial l'an dernier, qui était consacré ce reportage justement à cette question des ghostwriters, des ghostwriters et aussi du plagiat dans l'humour, disait dans le métier tout le monde sait qui sont les copieurs, c'est un secret de Polichinelle.
Oui, probablement. Après, ce qui fait on s'intéresse principalement au texte. La question, c'est est-ce que un humoriste c'est qu'un texte ? Est-ce que le succès de Gad Elmaleh est dû à ses textes, c'est ça la vraie question. En tout cas, c'est une des questions, je pense, qu'on peut se poser. Il y a beaucoup d'humoristes qui se servent dans les blagues trouvées sur Internet, qui n'ont pas d'auteur. Donc, est-ce que c'est du plagiat, c'est aussi des questions qu'on peut se poser. Les co-auteurs dans les spectacles, les humoristes ont des co-auteurs, ils sont pas forcément souvent cités, donc. Quand on est un génie de l'interprétation comme Gad Elmaleh, un humoriste, c'est à la fois un auteur et un interprète. C'est compliqué d'être à la fois un interprète de génie et en même temps un auteur excellent. C'est compliqué d'être les deux. On est en train de se rendre compte avec ce débat qu'on peut difficilement être les deux en même temps. Il y a toujours des auteurs derrière des artistes et voilà.
Vous êtes d'accord avec ça, Christine Garraud, vous qui êtes auteur justement, notamment pour des humoristes.
Écoutez, je suis tiraillée en deux, tel que vous me voyez, parce que d'un j'ai de l'affection pour Gad Elmaleh et de l'autre,
bon, s'agit pas de faire le procès de Gad Elmaleh ce soir. C'est en justice, on verra bien ce que ça.
Je sais à quel point c'est dur d'écrire des blagues et à quel point c'est une compétence qui est difficile à apprendre, parce que c'est un métier qui s'apprend aussi dans la douleur. Alex le sait, c'est-à-dire que moi, si aujourd'hui je sais écrire des blagues, c'est parce qu'à un moment donné sur scène, je me suis pris des bides, vous voyez ce que je veux dire, et que quelque part me voler une blague, c'est un petit peu comme si j'étais agricultrice, que j'avais labouré un champ, planté une graine, arrosé pendant des années, et que tout d'un coup, quelqu'un venait prendre le fruit que j'ai cultivé. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il y a aussi un petit sentiment d'injustice. On se dit, non, moi j'ai fait tout le travail, donc fais-le aussi de ton côté.
Mais vous voulez dire que ça vous est déjà arrivé ? Vous avez déjà repéré des blagues qu'on vous avait volées et dont vous êtes sûr que
j'ai
vous
vu
êtes...
J'ai vu des cas autour de moi. Et c'est vrai que il y a...
Et ça se règle comment ? Ça se règle dans la famille des humoristes, sans que ça sorte ?
Jusqu'ici, oui. Ce sont des mails qui s'échangent, des explications qui se font de visu. Ça restait de la cuisine interne jusqu'ici. Et il n'y a jamais eu de gros scandales à ma connaissance. Antoinette, peut-être
Non. Après, je pense que là, ce qui se passe, c'est que c'est des reprises de sketchs aussi de gens, d'acteurs américains très connus. Donc tout d'un coup, parce qu'après, il y a au quotidien, avec toutes les scènes ouvertes qu'il y a sur Paris, effectivement, bon nombre d'artistes lancent leur sketch tous les soirs, c'est pas protégé. Tout le monde est entre guillemets, on est entre potes, mais bon, voilà, ça n'empêche pas que certainement il y a des endroits où on n'a pas envie de se produire parce qu'on sait qu'on va se faire piquer des vannes.
Le fait d'ailleurs que ça touche le milieu du stand-up qui vient des États-Unis, est-ce que ça a pu aussi favoriser le fait qu'en important ce style-là, on a aussi importé un certain nombre de formules, de vannes, Antoinette Collin ?
Je sais pas. Moi, ce que je pense, c'est que faut remettre aussi les choses dans leur contexte. C'est vrai que sans Internet, la vie continuerait douce et tranquille. Donc c'est ça aussi qui a fait que tout d'un coup, ça change le temps, j'ai envie de dire. Donc c'est très. Alors bizarrement, quand c'est arrivé justement il y a 2 ans, je me suis dit dans la chanson, par exemple, je me suis fait cette réflexion peut-être complètement imbécile. Mais à l'époque des yéyés, les Claude François, les Dalida, etc., ils faisaient beaucoup de reprises
mais payaient les droits.
Alors, très certainement qu'ils payaient les droits, mais est-ce que le public était informé?
Ah oui, peut-être pas. Peut-être mais au pas, moins, l'auteur original, lui, l'était, puisqu'il recevait des droits d'auteur. Ce qui est différent, là, quand il s'agit de plagiat. Mais d'ailleurs, il y a du plagiat aussi dans la musique, il y en a dans la littérature. Il y en a partout. Alex Ramirez, vous, je disais, c'est votre troisième spectacle aujourd'hui. Le premier, je crois que vous ne l'aviez pas du tout écrit.
Exactement.
Le deuxième, à moitié. C'est-à-dire que vous aviez un ou des auteurs. J'ai et le dernier, vous l'avez écrit. Oui. Est-ce que cette question de savoir si finalement les blagues, les vannes que vous allez faire, les formules que vous allez trouver n'existent pas déjà ailleurs, est-ce que c'est quelque chose à quoi vous êtes attentif?
On va s'en rendre compte, mais des fois c'est a posteriori où il y a le processus d'écriture. J'aime bien cette rythmique, et puis on va se rendre compte à un moment en revoyant un one man show qu'on adore en disant d'accord, ok, je sais d'où elle vient, mais après si pour moi le mot est différent, le contexte est différent et qu'il y a juste une espèce de rythmique, je me dis ça. Pour moi, après c'est peut-être une erreur, je sais pas, je pense que ça peut aller. Après c'est quand c'est la même blague, la même phrase et le même contexte et le même thème.
Là, vraiment, ça pose problème. Là, c'est ça aussi qui est troublant, c'est que souvent, il y a un copier-coller à tous les niveaux. Ouais. Parce que moi, ce qui arrive souvent sur les auditions qu'on organise tous les mois au point virgule, c'est qu'on peut avoir des thèmes identiques, mais des façons de les traiter évidemment différentes. Et ce qui va créer, j'allais dire, une écriture supplémentaire, c'est la singularité de jeu. Donc c'est très... Alors après, évidemment, si sujet vers complément, c'est la même chose, là, évidemment, c'est du plagiat.
Et comme je trouve que le stand-up, par rapport au one-man show, on va dire peut-être plus français, où souvent on a un micro-casque parce qu'on joue, on fait des personnages, stand-up, c'est très fixe. Évidemment, on survit avec cette vanne pure, donc souvent, on va essayer, il faut en trouver un maximum, parce que la vanne, soit elle passe, soit elle passe pas, et puis on enchaîne et on passe à une autre. Et là, il faut beaucoup de matière, et je pense que c'est ce qui fait qu'on peut aller chercher ailleurs, malheureusement.
Sur ce phénomène d'imitation, j'imagine que c'est quelque chose que vous devez voir beaucoup à l'école du One Man Show, Mathias Seigné, c'est-à-dire des jeunes qui arrivent pour se former et qui, forcément, vont aller puiser du côté des grands anciens, peut-être même d'ailleurs en reproduisant des sketchs à l'identique, parce qu'il faut bien commencer quelque part, avec la difficulté de réussir à se singulariser ensuite.
Bien sûr, moi j'ai les humoristes en herbe, donc forcément ils arrivent, ils ont leurs idoles, donc ils commencent par les imiter, ce qui est normal. Parfois ils le font inconsciemment, ils en ont même pas conscience. On leur dit voilà, tiens, t'as un petit phrasé Florence Foresti, fais attention.
J'ai déjà entendu le scrap.
Voilà.
Vous travaillez d'ailleurs sur les reprises de sketch?
On travaille, oui, en première année sur les reprises de sketch. Bien sûr, ils travaillent le stand-up, les sketchs à situation. Bien sûr. Alors, ça arrive aussi parfois que entre élèves, il y en a qui s'accusent de vol, de plagiat, il y a des petites histoires comme ça internes à l'école. Bon, moi j'ai l'habitude de dire, de répondre par une formule, on peut voler une vanne, on peut pas voler un talent. Donc voilà, c'est beau. Non, mais
ça rappelle la fameuse phrase d'Edith Piaf, le trac, vous l'aurez quand vous aurez du talent.
C'est humoriste Samélia qui disait celui qui gagne, c'est celui qui fera un DVD.
Voilà, souvent, il y a longtemps, on disait ça d'ailleurs. Ouais. On disait que la vanne appartient à la première
capta.
La première capta.
Celui qui va percer en premier, ça sera officiel et ça sera la sienne. Ouais, c'était terrible. Ouais.
Donc, on commence par imiter. Et finalement, ce qui fait qu'un humoriste devient connu, je pense, c'est mon avis, c'est qu'il cultive sa singularité. Ce qu'il a en lui d'unique, son corps, sa voix, son phrasé, son intonation, fait qu'il va passer du stade d'humoriste débutant à éventuellement humoriste professionnel.
Si j'arrive à lire les expressions du visage de Christine Berrou, vous n'avez pas l'air tout à fait d'accord avec ça.
Je voudrais qu'on s'entende sur le terme de blague. Parce qu'en fait, quand on pense blague, on pense Toto, c'est un anglais, un Irlandais, un Espagnol qui rentre dans un bar.
Comment il faut dire alors?
Qui appartiennent à l'humanité. Non, c'est pas ça, c'est qu'une blague, c'est quoi? C'est un texte comique. Et dans texte comique, il y a texte. Et un texte, c'est quoi? C'est une vision sur la vie, c'est un vécu aussi personnel, c'est un choix, c'est une rythmique, c'est des mots. Pourquoi on protégerait un romancier et pas un humoriste? C'est ça, c'est que... Quand quelqu'un va piquer un extrait de bouquin pour le mettre dans son propre bouquin, on va crier au scandale et ça va être très grave, il va y avoir des procès. Mais par contre, on aurait droit de piquer des morceaux de spectacle.
Non, mais vous, par exemple, comment est-ce que votre travail est protégé? Vous qui êtes auteur, c'est-à-dire quand vous travaillez, je ne sais pas si vous voulez dire d'ailleurs pour qui vous travaillez ou
non,
pas.
Non, je ne préfère pas.
Ça ne se dit pas trop dans le
métier,
c'est
ça? C'est pas ça, c'est que je pars du principe que si je travaille dans l'ombre de quelqu'un, ce n'est pas pour profiter après de sa lumière. Je ne trouve pas ça très honnête et voilà.
En tout cas, alors par rapport, on va dire, au travail que vous pouvez faire pour quelqu'un, pour un ou une humoriste. Est-ce que vous touchez des droits directement? Est-ce que vous vendez votre travail?
C'est-à-dire, oui, alors...
vous vendez, on vous commande, je sais pas, moi, 10 blagues, voilà, et vous devez fournir vos 10 blagues.
Ça se passe comment? C'est ça. J'écris pour deux humoristes actuellement qui ont besoin de beaucoup de rendement parce qu'ils sont très présents dans les médias. Et effectivement, j'ai un salaire fixe au mois. Et en plus de ça, je touche des droits d'auteur puisque les textes sont enregistrés à la SACD et à la SACEM. Et en fait, on doit signer tous les 6 mois le pourcentage de ce qu'on a écrit pour la personne. Et
c'est... Donc, plus vous fournissez, plus vous êtes payé.
J'ai un fixe, donc quoi que je fournisse, oui. Parce qu'il arrive que la personne ne prenne rien.
Non, parce que j'allais dire, sinon, ça peut être tentant à un moment donné de se dire, mince, plutôt que d'en faire 10, je vais en faire 20, je vais aller en prendre un petit peu ailleurs, là, elles existent déjà, c'est pas grave, ça se verra
mais
pas.
Mais il m'est arrivé d'en faire 50 et qu'on m'en prenne 0, et d'en faire 5 et qu'on me prenne les 5, il n'y a pas de règle, mais je serai toujours payée pareil, et en plus de ça, je touche des droits d'auteur. Voilà.
Alex Ramirez.
Non, c'est intéressant, oui, parce qu'il y a aussi d'autres forfaits. Là, t'as ce forfait-là, mais des fois, il y a des forfaits où c'est vraiment à la vanne.
On se croirait dans la téléphonie mobile.
Bah ouais, mais des fois, bah oui, mais parce que je pense qu'il y a des humoristes qui ont besoin de tellement de rendement ou de tellement de vannes qu'ils peuvent plus compter sur leur personnalité ou leur singularité. Ils n'ont pas le temps, je pense, de. Je trouve qu'il y a un processus quand même de digestion sur une idée. Enfin, quand on écrit un spectacle, on prend du temps quand même. Et là, quand c'est des chroniques toutes les semaines, il faut s'entourer. Et des fois, je pense que certains savent même pas d'où viennent leurs vannes, peut-être, et que. Enfin. Je veux dire, soit ils font confiance à leur co-auteur, et c'est tant mieux, et je pense que c'est comme ça qu'il faut travailler.
Je disais en début d'émission, Alex Ramirez, que vous avez été chroniqueur dans Quotidien pour TMC. Ça s'est arrêté, je crois, il n'y a pas très longtemps. Est-ce que c'est parce que vous n'arriviez plus à fournir, justement?
La question piège.
C'est parce qu'en fait, il voulait plus d'actualité. Donc, moi, je faisais des parodies de publicité. J'étais très sur la pop culture. Et du coup, ils nous ont passé ça le vendredi. Mais le vendredi, j'ai des dates de spectacle. Du coup, c'était plus compliqué à lier les deux. Mais j'ai pu le voir, d'ailleurs, en m'entourant d'auteur, en me disant que je ne pouvais pas pouvoir écrire tout seul pendant toutes les semaines. Quoi.
En tout cas, il faut être productif quand on est dans l'humour aujourd'hui. Il faut produire. Et puis, il faut aussi se distinguer parce qu'il y a énormément de compétitions. Vous recevez combien de candidatures, vous, Antoinette Colin,
j'en reçois tous les jours. Après, il y a une sélection qui se fait en amont des auditions. Et sur les auditions, on a une bonne vingtaine par mois. Voilà. Après, nous, on est vraiment aussi sur le suivi, parce que les auditions... moi, j'aime pas l'idée justement d'audition. On appelle ça audition, évidemment, mais j'aime bien plus l'idée de rendez-vous de travail. Parce que souvent, bon nombre d'artistes, je les ai pas pris pendant 3, 4, 5 fois. Et puis parfois, au bout de la 6e fois, ça prend. Et parce que il faut une maturité, parce qu'il faut se remettre en question. Que souvent, le défaut de tous les débutants, c'est d'écrire un premier jet de son sketch et d'être convaincu d'avoir pondu une merveille. Donc, il ne touche plus à rien.
Et vous lui dites, oui, mais ça a déjà été fait.
Et dès qu'on se met à jouer, faut tout recasser, tout recadrer. Enfin, voilà, c'est un travail de longue haleine.
Vous constatez les mêmes choses, Mathias Seigné, vous, à l'école du One Man Show?
Oui, bien sûr, ça arrive. Donc, le plus gros du travail, finalement, ça reste l'esprit de synthèse, c'est-à-dire synthétiser une idée, puisque l'humour, c'est du condensé d'informations. Bon, ça, c'est des choses un peu techniques qu'on apprend. On a une méthodologie d'écriture. Voilà, si après on l'applique, on va augmenter ses chances de réussir. Mais voilà, après, je rappelle que, encore une fois, nous, on pousse les élèves à cultiver ce qu'ils ont de plus singulier en eux, parce que c'est ça qu'ils vont se démarquer.
Alors, avoir des qualités d'interprétation, c'est important, mais ça ne suffit pas toujours. Je voudrais vous faire écouter un extrait d'un spectacle qui est assez récent, qui a été fait pour les 30 ans de carrière de Pierre Palmade. Le spectacle s'intitule, alors attendez, je vais retrouver dans mes fiches, On se refait Palmade. Ce sont des comédiens qui montaient sur scène pour refaire en gros les sketchs les plus connus de Pierre Palmade. Et notamment Laurent Deutsch, le comédien Laurent Deutsch, dans le sketch du colonel.
Pardon, mon colonel? Je peux vous voir entre deux manœuvres? C'est très gentil de votre part. Alors, oh, excusez-moi, je ne vous ai pas dit bonjour. Enfin, salut. Enfin, bonjour. Excusez-moi, hein, je ne suis pas encore complètement familier avec vos rites, mais je sens que ça commence à venir. Oui, alors, je suis le chasseur de la guéronnière. J'ai été incorporé il y a quoi? Une semaine. Et j'avoue, il y a deux ou trois petites choses dont j'aimerais vous entretenir. C'est pas grave. Mais si vous prenez en compte ce que je vais vous dire, je pense qu'on peut aller vers un peu plus de confort. Je sais que c'est pas un de vos principaux buts, mais ça peut être un plus pour le moral des troupes. Asseyez-vous, hein, je vous en prie.
Alors Christine Béroux, vous qui avez écrit un one-man show et monté sur scène, je rappelle, édition et rôle, c'était en 2012. Qu'est-ce qui fait que quand j'ai vu ce sketch à la télé, sketch de Pierre Palmade interprété par Laurent Deutsch, ça m'a beaucoup moins fait rire que l'original, alors que c'est très très proche. Alors évidemment le texte est exactement le même, mais même l'interprétation, je pense que pour les auditrices et les auditeurs, je suis pas sûr qu'ils aient forcément différencié les voix de l'auteur original de l'interprète.
Bah, il trouve que cette fois-ci là, vous n'avez pas autant ri, mais si ça se trouve.
Mais les autres m'ont pas convaincu non plus. C'est-à-dire, je me suis dit en voyant finalement ce spectacle, il suffit pas d'être comédien et de reprendre un texte pour être drôle, quoi. C'est-à-dire ça. Il suffit pas ni d'avoir cette capacité à interpréter, ni d'avoir le texte qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut en plus?
Alors là, si je le savais, je serais.
Si je le savais, j'aurais écrit un livre pour faire un one man show.
J'aurais eu un spectacle qui marche surtout.
Il y avait pas de la nostalgie aussi, ça. Vous voulez peut-être voir le vrai Pierre Palmade?
Ah, peut-être qu'il y avait ça.
C'est ça. On est tellement habitués à l'oreille.
Je pense que c'est ça.
Et moi, j'y étais à cette soirée. Et c'est vrai que je suis assez d'accord avec vous. Tous les artistes étaient les comédiens, c'était fou parce que la troupe Palmade, c'est vraiment des comédiens très très talentueux. Et c'est dingue parce que c'est-à-dire que c'est comme si on guettait la singularité de la personne qui réinterprète quelque part. Mais il y a un tel mimétisme parce que je pense que Laurent Deutsch lui-même, ça devait le cadrer de se dire tiens, je vais possiblement faire comme Palmade. Et du coup, je pense qu'on est dans un rapport d'observateur, à scruter, à se dire tiens. Et puis il y a tellement d'intonations de voix, enfin il y a beaucoup de choses de mimétisme. C'est assez troublant d'ailleurs à écouter comme ça.
Vous disiez Matassiené, donc vous à l'école du One Man Show, il y a des élèves qui en première année réinterprètent des sketchs. La réinterprétation, justement, comment est-ce que vous la travaillez? C'est-à-dire, est-ce que l'idée, c'est d'avoir les mêmes effets au même moment que dans le sketch original, ou bien c'est d'essayer d'apporter quelque chose d'un peu différent? Surtout... Donnez-nous un petit cours, là. Tiens.
Surtout pas de faire la même chose. Justement, c'est de se réapproprier le texte pour le faire différemment, se l'approprier. Je conseille aux élèves, d'ailleurs, de pas regarder la vidéo avant, parce que voilà, ça va trop les influencer. Un texte, on se rend pas compte, mais ça peut être joué d'un million de façons. Ça peut même prendre un nouveau sens, que ce soit joué par un garçon, par une fille, par quelqu'un de jeune, par quelqu'un de vieux. Ça va prendre des sens totalement différents. Et ça, c'est précieux. Donc, je pense qu'il faut le garder. Mais ça relativise la question du texte, encore une fois, parce que vous donnez un texte à 100 humoristes différents. Certaines fois, ça vous fait rire, pas d'autres. Donc, ça relativise encore une fois, ça relativise ce que c'est qu'un texte, ce que c'est qu'un bon texte, finalement.
Et pour reprendre d'ailleurs la comparaison avec les blagues. Alors, les blagues qu'on peut se raconter dans les repas de famille, par exemple, au bureau, on sait bien qu'il y a des gens qui les racontent très bien, et puis d'autres qui, avec exactement la
dans
même
le
blague,
bureau.
Vont faire des trucs totalement nuls. Alex Ramirez, il vous arrive de, ou en tout cas il vous est arrivé
de raconter des pas du tout
non de reprendre des sketchs mais d'humoristes déjà connus en hommage comme on fait, je sais pas moi, des chanteurs font des albums hommage de reprises.
Ouais, déjà moi je trouve que ces soirées hommage à Palmade, Sylvie Joly, tout ça, au moins c'est officiel, c'est montré, on sait où vont les droits et je trouve ça bien. Comme des fois on faisait des soirées chansons Aznavour ou enfin voilà. Et sinon moi j'ai fait une soirée, c'était pour Coluche Rire et Chanson. J'avais repris l'autostoppeur.
Ah oui, c'est vrai.
Mais en changeant, parce que j'ai pas eu tout la gouaille de Coluche, du coup je faisais. Voilà, le personnage, c'est un mec insupportable, donc c'était plus quelqu'un qui, le côté parisien, ton traînant, voilà, qui était là avec son chien. Mais
Je rebondis sur ce que tu dis parce que la soirée, pareil, c'était au Grand Point Virgule.
Oui.
Et c'était voilà, exactement, c'est incroyable. Non, mais très sincèrement, c'était une super soirée parce que justement, au contraire de la soirée Palmade qui était super aussi, hein, mais je trouvais que pour le coup, la soirée au Grand Point, la nouvelle génération avait vraiment fait cas, si je puis dire, des auteurs initiaux. Et c'était vraiment réapproprié les sketchs de Coluche. Et il n'y avait plus... On oubliait que c'était les sketchs de Coluche. Parce que ça avait très très bien fonctionné. Et je pense que ce qui fait que tout d'un coup ça bascule et que ça devient vraiment très très drôle, c'est quand l'interprète a ce qu'on appelle la vis comica. Voilà, on l'a pas. Donc, et on peut être très bon comédien et très mauvais one man.
Christine Berrou.
Oui, parce que Laurent Deutsch est très bon comédien et je pense qu'il n'a pas su imposer son propre style. Je pense qu'il a voulu trop peut-être respecter la plume de Pierre Palman et faire justement comme lui. Parce que quand on voit un des plus grands auteurs comiques aujourd'hui, c'est Molière, on n'a aucune trace sonore évidemment de comment c'était joué à l'époque. Mmh. Et il est joué tous les ans, tout le temps, et c'est toujours aussi efficace.
Alors on me dit que Laurent Deutsch nous écoute. Quel conseil pourrait-on lui donner pour une réinterprétation du colonel de Pierre Palmade, Christine Berrou?
Peut-être qu'il fallait le faire en Laurent Deutsch, en nous parlant du métro.
Ouais, c'est vrai.
Alex Ramirez.
Ouais, c'est intéressant. Bah ouais, c'est ça, avec lui-même. Bah alors après, la grande question, c'est que là, on parle de comment réinterpréter un texte, mais parce qu'on sait que ce texte n'est pas, n'appartient pas à Laurent Deutsch. Or, le souci, c'est pour ça, quand tu disais, tout est relatif. Je sais pas si c'est juste, on a le droit, parce qu'on est drôle, de reprendre tout ce qu'on veut, en disant, de toute façon, je vais le rendre hyper drôle. Oui, mais alors, faut peut-être rendre aussi César ce qui est à César.
Ça peut être quoi la limite, justement, Mathias Seigné, dans ce qui relèverait de la citation, de l'hommage et du plagiat? C'est-à-dire, à quel moment donné on peut s'arrêter d'emprunter? Parce que, comme toutes les formes artistiques, quand on crée quelque chose, on ne crée jamais de nulle part. Il y a toujours ceux qui nous ont précédés, enfin, ceux qui vous ont précédés, parce que je ne me considère pas encore tout à fait comme un artiste. Il y a forcément des influences, mais toujours difficile, et c'est peut-être d'autant plus difficile dans l'humour, où c'est pas un art qui est figé, qui est écrit, qui est patrimonialisé. Donc c'est plus difficile, j'imagine.
C'est très 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 compliqué. Très compliqué à partir de quand il y a plagiat, citation, inspiration, trop forte inspiration. D'ailleurs, dans les vidéos copies comiques, à un moment donné, on fait un parallèle entre un extrait des Trois Frères avec un extrait d'un sketch de Gad Elmaleh sur le problème de la baignoire qui se remplit, mais moi je prends des douches, etc. Le problème, c'est que c'est une blague au départ. Donc c'est ni Les Inconnus ni Gad Elmaleh qui l'ont inventé. Donc si vous voulez retrouver l'auteur de ça, vous allez avoir du mal. Alors bon, il y a parfois des cas où effectivement, Thomas Sisley l'a reconnu, donc c'est très bien, où effectivement il y a bien plagiat, on paraphrase bien le texte à la virgule près. Je pense que c'est mieux de le reconnaître, de le dire, de... Voilà. Après... bien sûr qu'on s'inspire, et la limite pour moi est compliquée à voir. Ça va aller loin, enfin, on peut revenir très loin.
Christine Berrou.
Je pense qu'il faut en appeler tout simplement à l'instinct et à la bonne foi, être de bonne foi vis-à-vis de soi-même et de faire jouer son instinct quand on regarde les sketchs des autres, tout simplement. Parce que je pense qu'un humoriste, c'est un artiste. Et qu'est-ce qu'un artiste sinon un prisme? Et on est tous différents, on a tous un regard différent sur le monde. Donc, par définition, notre production artistique va être différente. Et je pense que forcément, rien de secret, tout se transforme, mais... comme vous dites, où est la limite?
Alors, où est la limite entre le plagiat et l'hommage? Sur cette question, deuxième extrait de la soirée. Encore un sketch. Cette fois, nous sommes avec Florence Foresti. Pour Foresti Party, elle est sur scène. C'était en 2012 et on la voit notamment diffuser une vidéo où elle raconte sa vie de mère de famille totalement débordée. Et elle croise l'épouse de Jamel Debbouze, Mélissa Torio, qui, elle, est toujours propre sur elle, à qui il n'arrive rien. Elle le fait sur un format qui est particulier. C'est les vidéos de Bref, c'était un programme court de Canal+, qui avait une rythmique extrêmement saccadée, qui a énormément marché. Elle ne cite pas l'auteur des vidéos de Bref, Kian Kojandi, qui, à un moment donné, arrive sur scène.
Oh, et alors, qu'est-ce que je voulais dire? T'as tout vu? Ça
très bien, très bien. C'est marrant. Bien construit. Il y a juste un truc qui m'a pincé à un moment donné. Là,
qui t'a
pincé?
Pincé.
Oui.
Ah, Beyoncé. Beyoncé,
non,
ça t'a ému.
Après,
quand je fais... Ouais,
le plagiat de Bref que t'as fait, Florence.
Le plagiat, l'hommage. Et l'hommage à Kian Kojandi, mesdames, messieurs. Succès.
Merci.
Succès de l'amateur. Bref, succès de fou. 2 millions, 2 millions
non,
de fans.
Non, c'est pas 2 millions, c'est pas 2 millions. Je connais pas les chiffres exacts, c'est rien. Environ 3 128 287, je sais pas.
Eh ben, c'est ça, je suis à 3 087.
Excusez-moi, pardon. Ouais. Ça s'appelle un plagiat, Florence. Quand tu vois un truc marrant sur Internet, oui. Tu mets ta gueule dedans, tu m'appelles pas, ça oui. S'appelle un plagiat. Ouais.
Oui, oui, oui.
Alors, moi, j'ai une mise en demeure qui
non,
part
alors,
demain.
Attends, c'est mon métier de parodier les gens, si tu veux. Je me nourris de ça. Regarde, quand je fais Michael Jackson, il ne demande pas des royalties.
Ouais, mais il est mort.
On aurait pu passer le sketch en entier, mais enfin, c'était un petit peu long pour notre émission. Ouais, Alex Ramirez.
Bah, ça résume bien pas mal de choses. Faut appeler les gens. Faut appeler les gens.
Et en même temps,
il y a Michael Jackson. Et je pense pas qu'elle appelle Beyoncé quand elle le dit. Et est-ce qu'il y a des, au bout d'un moment, ça rentre dans on va dire, dans le vivier culturel et on a le droit de le reprendre comme ça. Ça veut dire que, est-ce que si on se déguise à une soirée, est-ce qu'il faut le dire? Est-ce qu'il faut donner des droits? Enfin, si on se déguise en Michael Jackson, si on reprend.
Si tu fais un DVD avec ta soirée, oui.
Ouais. C'est vrai, exactement.
Ça donc, fait plusieurs fois que vous dites qu'il faut appeler les gens. Vous, ça vous est arrivé justement d'appeler des gens
en disant genre, fais...
bah, oui, écoute,
je vais faire ton spectacle.
Non, mais je t'ai peut-être piqué quelque chose ou en tout cas je t'ai emprunté.
Moi, sur YouTube, en fait, je fais des vidéos low cost où je reprends plan par plan des scènes de films cultes, mais c'est vraiment plan par plan. Et du coup, je mets la vidéo en dessous parce que ce qui est intéressant, c'est de montrer que j'ai totalement.
Mais tu n'as pas de budget.
Voilà, je n'ai pas de budget et que j'ai totalement puisé vraiment au plan près, à la seconde près. Dans un film culte et que les gens connaissent.
C'est un hommage.
C'est un hommage. Donc moi, je me base là-dessus.
Mais vous savez qu'avec la directive sur les droits d'auteur là, qui vient de passer au Parlement européen, vous risquez d'avoir des ennuis. Hein,
c'est
de
vrai,
devoir,
ça me paraît. Mais alors déjà, moi, je ne gagne aucun argent là-dessus, à part de la notoriété. Et il s'avère que Disney m'a enlevé des restrictions de visionnage, c'est-à-dire qu'avant, on pouvait les regarder que sur ordinateur portable. Et ils les ont enlevés, maintenant, on peut les voir tout le temps. Je vais voir, peut-être fin mars, je reviendrai en pleurant en disant bon.
Non, parce que tu seras en prison.
Cette époque voilà. Est passée. Ah ouais, à ce point? Vous me faites peur, là.
Antoinette Collin, ça vous inspire quoi, le sketch qu'on a entendu là, entre Florence Foresti et Ken Kojandi? C'est pas du plagiat, c'est un hommage.
C'est ça, bah, ça me fait penser à Yvette Leglaire. Hein. J'avais une humoriste qui plagiait justement Piaf et qui terminait tous ses sketchs en disant c'est un hommage, c'est un hommage. Donc voilà, ça me fait penser à elle. Mais non, c'est très bien fait, puis c'est l'ironie. Après, il y a deux choses auxquelles. C'est-à-dire que tout ça, c'est devenu un énorme business aussi. Donc il faut quand même être clair que c'est voilà, il y a beaucoup d'argent en jeu. Donc parce que c'est pas les, entre guillemets les petits artistes en développement qui se mènent des guerres entre eux pour tu me dois 10 balles, voilà, on n'en est pas là. C'est quand ça il y a des grosses sommes d'argent qui sont en jeu. Et puis au-delà de ça, moi c'est aussi je pense que en France, on a un vrai travail à faire sur la reconnaissance des auteurs. Ça c'est un vrai souci. Moi je sais que évidemment, un humoriste sans texte n'a rien à donner, rien à bouffer, si je puis dire, passez-moi l'expression. Hein. Mais il y a un vrai problème de reconnaissance des auteurs.
Ça, mais Christine Béraud nous disait, quand l'humoriste qui est sur scène nous laisse dans l'ombre, il n'y a pas de raison qu'on se manifeste.
Suis...
Il faudrait les...
ouais, je suis reconnue. Je suis reconnue dans mon travail. Quand je collabore avec l'humoriste et qu'il me paye correctement et que je peux travailler et vivre de ma plume, je suis reconnue dans mon travail. Mais
vous êtes sur l'affiche, par exemple?
Non,
on voit votre nom.
Je ne pense pas qu'il faille forcément être sur une affiche pour être reconnue. Je suis très heureuse d'écrire pour les autres. Je n'ai pas besoin
de mon nom écrit quelque part. J'ai vu vraiment des cas où... parce que, si vous voulez, ce qui est un peu tordu dans nos métiers, c'est que, une fois de plus, c'est une histoire de moyens. Quand un artiste commence, il n'a pas les moyens de prendre des auteurs, de payer des auteurs. Donc, c'est souvent le copain, la copine, les gens qui suivent et qui grandissent avec l'artiste. Moi, il m'est arrivé de voir des artistes. Il n'y avait pas le budget pour l'auteur, il y avait le budget pour je sais pas, le régisseur plateau. Le régisseur plateau pouvait se retrouver à coécrire et on ne le reconnaissait pas comme auteur, mais plutôt comme régisseur, parce que ça coûte moins cher de payer un régisseur que de reconnaître un auteur sur 5 ans, 10 ans parfois d'un spectacle qui peut vivre longtemps. Donc c'est là où je parle de reconnaissance qui n'est pas là.
Ça a l'air de rappeler des souvenirs à Alex Ramirez.
C'est assez terrible, quoi.
Non, mais je trouve ça intéressant parce que même, je lisais un article par rapport à 10% où ils avaient même du mal, alors que c'est une série qui cartonne, parce que ils avaient du mal parce que pour financer et trouver des gens, il y a des pools d'auteurs entiers dans des émissions humoristiques en Amérique où vraiment ils se réunissent et c'est reconnu. Et c'est eux, et ça n'enlève pas du prestige aux interprètes et aux humoristes qui font les sketchs, en fait.
Les élèves de l'école du One Man Show, du coup, ils peuvent se regrouper parfois en collectif, certains qui sont peut-être plus doués pour la scène et d'autres qui sont davantage doués pour l'écriture, Mathias Seigné.
Oui, ça arrive. Ils vont aller s'entraider entre eux. En tout cas, nous, on les encourage parce que dans les écoles, c'est là où on se fait les contacts. Donc, c'est important. Et après, c'est le destin. Hein. Il y en a qui vont avoir un destin plus d'auteur parce qu'ils ont plus de facilité là-dedans et plus de difficultés en interprétation. Et puis d'autres, ce sera l'inverse. En tout cas, ceux qui prendront la lumière, ce sera quand même logiquement les interprètes.
Et c'est ce qui vous semble logique. Il y a Alex Vizorek qui, dans une interview pour France TV Info, qui est assez récente, enfin qui date d'il y a quelques mois puisqu'il n'était pas encore sur C8. Alors lui, il disait, il reconnaissait, il n'y a pas d'ailleurs de raison de ne pas le reconnaître parce que c'est pas un crime, hein, qu'il y avait des auteurs qui travaillaient pour lui, en disant donc chaque blague est facturée, et en disant comme dans la gastronomie ou les ateliers de peinture, c'est le chef qui reçoit les étoiles et les honneurs, donc c'est celui qui est sur scène. Toinette Collin, Christine Béraud. mot, oui, finalement, c'est pas quelque chose de...
Je crois que tout le monde a raison autour de cette table. Ah, voilà.
Non, mais c'est juste.
C'est parce que vous voyez la pendule tourner, vous dites qu'il faut peut-être conclure.
Mais c'est aussi bien, c'est le travail peut-être de la personne qui est en lumière, de dire je ne suis pas seul dans tout ce que vous venez de voir, et du coup, ça démocratise et ça installe un côté de... oui, c'est pas des surhommes, mais ils peuvent faire ça à plusieurs.
Est-ce que vous vous souvenez de qui a écrit votre premier spectacle, vous?
Oui, bien sûr, Jocelyn Flipeau, qui a été même mon manager pendant très longtemps. Donc, il m'a vraiment aidé à entrer dans le métier.
Je me demandais si, de la même manière qu'il y a du covoiturage aujourd'hui, il pouvait y avoir espèce des lieux de partage où on s'échangerait des vannes, c'est-à-dire quand on est un peu à sec au niveau de l'inspiration, Christine Béraud, c'est-à-dire on peut appeler des gens en disant tiens, t'aurais pas quelque chose à me passer.
Oui, il y a des humoristes qui font ce qu'on appelle des résidences d'écriture, oui, ça se fait, hein, mm-hmm. Qui se retrouvent, on loue un appart pendant une semaine au bord de la plage et puis on écrit, oui.
Mais imaginons par exemple demain, vous êtes sur Europe 1, enfin je sais pas si ce sera le cas dans l'émission.
Oui, tout à fait. Émission spéciale sur la journée des droits de la femme.
Vous êtes venu à France Culture, vous n'avez pas eu le temps de réfléchir à votre sketch. Qui vous appelait pour vous dépanner en urgence?
On se fait jamais dépanner en urgence, ça veut dire qu'on s'est manqué d'organisation. Vous m'en posez une colle, parce que... oui,
elle
forcément.
Elle est studieuse, Christine.
Ouais, c'est gentil.
Bah,
non, mais bien
sûr,
on a un petit répertoire, oui. Est-ce que tu peux me trouver des blagues sur... Oui, c'est arrivé, ça arrivait.
Antoinette Collin.
Je sais plus ce que j'avais voulu dire.
Je disais que j'étais studieuse.
Oui, c'est ça, tu es très studieuse. Pardon, je sais plus les questions, c'était...
Non, grave, j'en ai une autre. Non, c'était par rapport à cette idée d'échanger finalement les blagues, ou en tout cas de s'entraider dans ce milieu.
Ah oui,
ou bien parce que vous dites c'est un business, est-ce qu'il y a de l'entraide ou est-ce qu'il y a davantage
y a
de
deux,
la compétition?
Il y a beaucoup de compétition parce qu'il n'y a jamais eu autant d'humour.
Énormément de spectacles, hein, ça, franchement. À Paris, on peut voir un spectacle d'humour.
Moi, rien qu'au point virgule, j'en ai 7 par exemple le samedi. Oui, 7, 8 côté grand point. Enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup. Mais après, après, il y a des petites familles qui se créent. Il y a vraiment des affinités qui se font. Voilà, et il y a beaucoup de compétition, ça c'est évident. Ça c'est une évidence.
Au début de l'émission, je crois que c'est vous, Alex Ramirez, qui disiez ce copy-com là, oui. Ce copy-comic, on ne sait pas qui il est. Ah, c'est vrai qu'il est anonyme, alors il se fait appeler Ben, mais on ne l'a jamais vu. Il y a quelques indices quand même. Il travaille dans le milieu du théâtre et l'humour a une place importante dans sa vie. Moi, je me disais avant de débuter l'émission, si ça se trouve, qui est-ce que c'est l'un d'entre vous
Christine
Ben. Eh bien, merci.
Christine Ben.
Mathias Seignier qui a l'air assez discret quand même, hein, depuis le début de l'émission.
On dirait une partie de Antoinette dans la bibliothèque avec le chandelier.
Ouais. Non, il a une grosse culture américaine, des stand-up américains, et c'est pas du tout ma famille, le stand-up pour le coup, si je dois me défendre.
Et justement sur ce sujet, est-ce que c'est important d'avoir une bonne culture de l'humour pour pouvoir être humoriste? Est-ce que ça sert,
c'est important d'avoir une bonne culture tout court.
Ouais. Plutôt.
Voilà, de lire, de s'informer, d'être curieux, voilà. D'être un artiste, quoi.
Dernière question, parce qu'on est quasiment au terme de l'émission. Est-ce qu'il y a un sketch, les uns et les autres, dont vous vous dites, tiens, celui-là, j'aurais bien aimé l'avoir écrit? Comme c'est une question difficile, je vais commencer par Alex Ramirez, qui a l'habitude d'improviser.
Moi, j'adore la solitude de Muriel Robin, mais j'ai pas encore assez de talent. Enfin, je sais pas, pour moi, il est parfait. Donc oui, j'aurais adoré l'avoir écrit, c'est sûr.
Mathias Seignier.
Les sketchs de mime de Monsieur Fraise, j'aurais aimé les avoir écrits. Voilà.
Cela dit, c'est de l'écriture, hein, le mime. Hein.
Bien sûr, mais j'aime beaucoup, donc je lui rends hommage. Mmh. Et moi, personne n'a voulu me copier mes textes, donc je suis un peu vexé. Voilà.
Christine Béraud.
Moi, c'est le dernier spectacle de Sarah Silverman, voilà, dont je suis très jalouse.
D'accord, c'est carrément tout un spectacle.
Oui, oui, tant qu'à faire.
Et vous, Antoinette Collin?
Un de mes sketchs, je pense.
Évidemment, je ne peux pas me mettre un mal. Non,
avec qui allez-vous vous fâcher?
Oh, personne. Par exemple, j'ai vu le dernier spectacle de Chantal Latsou. Uh-huh. Et voilà, moi je suis restée, j'adore.
Et
j'adore,
ben, on va.
Et voilà, c'est Chantal, quoi.
Et ben voilà, qui va nous servir de quoi plaisir. Ah, il a été formidablement bien imité. Merci en tout cas à tous.
Merci
les
à
quatre. Alex Ramirez, donc je rappelle, vous êtes en spectacle à la Comédie de Paris jusqu'au 30 mars. Sensiblement viril, puis en tournée dans toute la France. Antoinette Collin, s'il y a un spectacle à aller voir au point de virgule en ce moment, c'est...
Tous.
Parce
que je vais, voilà, mais en vrac, Fadil Camara, Panayotis, Tony Saint-Laurent... voilà, Desperate Housewives, Caroline Vigneault, voilà.
Ouais, vous les avez presque tous fait. À la Comédie d'Alérac, Mathias Seignet.
Oui, en ce moment, les entretiens d'embauche, c'est un duo comique sur le monde du travail. Que j'ai écrit, que je joue avec d'autres comédiens. Et le cabaret du Poulpe Pourpre, le samedi à 21h, ils venaient à l'école du One Man Show. Vous inscrivez dans le directeur Alexandre de Limoges, je vais me taper dessus.
Il y a
voilà.
Ma promo aussi. Hein.
Et Christine Béroux, à la recherche du temps perdu sur Internet. Ça n'est pas un ouvrage d'humour, c'est un roman, c'est oui, ça, oui. Chez Flammarion. Et c'est sorti l'an dernier. Merci beaucoup à tous les quatre,
le
Antoinette Collin,
parfait,
Alex Ramirez, Christine Béroux et Mathias Seignet. Ah bah, on n'est pas sur Europe là. Merci. Et dans 3 minutes. Non, parce que j'ai pas le temps de dire merci à toute l'équipe.